Je vous invite à ouvrir les psaumes et à puiser avec moi des réconforts, des réponses, des lumières sur le chemin. On va introduire avec le psaume 123. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Connaissez-vous l'histoire, je l'ai dit ce matin deux mots, du petit poussé dans la forêt? C'est un conte, on ne sait pas d'où il vient, tellement il a des origines lointaines, mais Charles Perrault a su le reprendre et le mettre bien en forme. C'est une famille de bûcherons qui n'a plus rien à manger. Et le père a décidé d'emmener ses 7 garçons, c'est pas rien, hein, et de les perdre dans la forêt. Il se débarrasse de ses enfants. C'est horrible comme conte, hein? Souvent, les contes sont horribles, remarquez bien. Mais il y avait le dernier des 7, pas très grand, on l'appelait le petit poussé. Il a entendu ce que ses parents ont dit. Faites attention, vos parents, vos enfants vous écoutent. Et avant de partir dans la forêt, il a mis dans sa poche des petits cailloux blancs. Et au fur et à mesure du chemin, le petit poussé jetait un petit caillou là, un petit caillou ici. Et quand ils ont réalisé qu'ils étaient abandonnés, ils ont retrouvé les cailloux et sont revenus chez eux. On a voulu également perdre David, le roi David dans la Bible. Perdre sa vie, la casser en 1000 morceaux, peut-être même pour vous-même. Des gens ont voulu perdre votre vie. Et David nous a laissé aussi des petits cailloux blancs, des prières, pour nous montrer le chemin vers Dieu. Eh bien, j'ai retrouvé, pas seul heureusement, ces petits cailloux blancs. J'ai retrouvé les prières de David, que vous pouvez tous trouver, bien sûr, dans la Bible. Et je pense que ces petits cailloux, ces prières, sont des signes de la présence de Dieu et du chemin vers Dieu. Je lève les yeux vers toi qui siège dans les cieux, car nous sommes rassasiés de mépris. Il n'y a personne ici qui a été un jour rassasié de mépris, de moquerie, et qui s'est senti depuis son enfance entouré de murs. Et partout où il se tournait, il se voyait misérable, exclu, méprisé. Peut-être parce que ce quelqu'un, il était plus petit, il a bu des échecs scolaires, peut-être parce qu'il était faible et parce qu'il ne disait jamais un mot. Alors on l'a exclu, on l'a méprisé. Et toute sa vie, il a été dans des murs, emmuré. C'est un peu le cas de David. Alors David a dit, je lève les yeux plus haut que ces murs de moquerie. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Je ne regarde pas les barrages qui sont autour de moi. Je ne regarde pas mes échecs. Je ne regarde pas les moqueries, les découragements. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, qui es dans les cieux. Car toi, tu es plus haut que tout ce qui m'enferme. Tu es plus haut que tout ce que j'imagine. Tu es plus haut que mon cœur. Tu es plus haut que mes fautes, tu es plus grand que moi. Je lève les yeux vers toi qui es dans les cieux. Et David, et chacun de nous, nous voyons que Dieu, comme un maître de maison qui fait signe à ses serviteurs avec sa main, nous voyons que Dieu fait des signes. On ne se contenterait pas d'un Dieu qui ne bouge jamais, qui ne dit jamais un mot. Un Dieu qui dort, qui est en vacances. Levons nos yeux et nous verrons que Dieu dans le ciel se lève quand les apôtres vont se noyer dans la barque. Dieu dans le ciel parle, Dieu dans le ciel étend sa main et il prend Pierre, l'apôtre, qui marche sur l'eau et qui va se noyer. Dieu dans le ciel fait signe. Alors David, il va nous laisser des petites pierres, des petits cailloux, des prières, pour nous dire que, aux endroits les pires de la vie, nous pouvons prier. Dieu nous entend. Je vais vous en citer deux. Peut-être que ça va vous dépasser, mais peut-être que ça ne va pas vous dépasser. Parce qu'en fait, je pense que nous vivons tous les expériences du roi David de Jérusalem. Le premier psaume que j'aimerais, ça c'était l'introduction, le premier psaume que j'aimerais lire, c'est le psaume 27, quelques versets seulement. Psaume 27, dont nous venons de chanter les paroles. Je pense que vous avez trouvé où vous écoutez. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle, dans son temple, au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. David est surpris par des imprévus, des méchants. Vous n'avez jamais rencontré des méchants? Je trouve que le monde devient méchant. Pas vous? Je trouve qu'aujourd'hui, les gens, parfois des voisins, tout proches, la famille, manifestent des sentiments de méchanceté. David est surpris par des méchants, mais ce n'est pas seulement des méchants, ce sont des ennemis contre David. Ce n'est pas seulement des ennemis, ils sont toute une armée. Ça commence à être grave. Ils sont en guerre contre David. C'est sérieux. C'est sérieux parce que ces gens-là qui sont pleins de méchanceté, de violence, David dit, ils veulent dévorer ma chair. Qu'est-ce que ça veut dire, dévorer ma chair? Ils ne vont pas me manger comme des cannibales. Ça veut dire qu'ils veulent détruire ce que je suis. Ils veulent détruire ma santé. Ils veulent détruire mon repos. Ils veulent détruire ma réputation. Le mal, ce n'est pas un jeu. Ça casse des hommes, des femmes. Ça casse des familles. Ça casse des avenirs. Mais David, il le sait parce qu'il sait que dans le ciel, il y a quelqu'un qui marche, y a quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui se lève, Dieu. David dit, je suis plein de confiance. Peut-être que vous, mes amis, vous êtes devant des assaillants qui ne sont peut-être pas des personnes physiques, ça peut être des échecs, des maladies, des souffrances, des tristesses, des craintes, des dépressions nerveuses. Vous êtes devant tout ce flot de contradictions. Écoutez bien la prière de David. Je suis malgré tout plein de confiance. Il n'a pas d'armes, David, devant tous ces gens-là. On n'a pas d'armes contre la méchanceté. On n'a pas d'armes contre le monde qui se détruit. On n'a pas d'armes devant ce déclin de l'humanité. On n'a pas d'armes devant tous ces hommes. Pourtant, David, il a vaincu le Goliath avec une pierre. Mais je crois que le plus grave, le plus dangereux, ce n'est pas Goliath, ce sont les fourmis. Les petites choses. Quand il avait Goliath en face de lui, il savait à qui il avait affaire. Mais les fourmis, c'est le plus grand danger de l'humanité, vous le savez. La bête la plus dangereuse, la bête contre laquelle on n'a pas d'armes, on n'a rien pour résister, on est sans force, qui nous détruirait complètement, qui détruirait toute l'humanité si on avait assez, ce sont les fourmis. Ils sont capables de résister à l'eau, au feu, sont capables de traverser tous les dangers pour détruire tout ce qu'elles rencontrent. Et ces gens qui viennent pour assaillir David, je les compare à des petites fourmis. Il a confiance, cette confiance ne va pas vaincre les gens, ne va pas vaincre ses ennemis, mais sa confiance va garder son âme en paix. Il dira, de qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur. Son âme est tranquille. David ne compte pas toutes les forces de ses adversaires. Il ne compte pas tous ceux qui viennent contre lui. Il a seulement confiance dans la bonté de Dieu qui le défendra. Le secret de David. L'Éternel est ma lumière, mon soutien, ma force. Ce qui veut dire le Seigneur est en relation avec moi. Ma lumière, mon salut, mon soutien. Ce qui donne de la force à la prière des hommes sur la terre, chahuté par tous les grands événements et les petits de la vie, c'est de savoir que Dieu est en relation avec eux. Mon salut, mon sauveur. Il ne faut pas savoir seulement que Dieu existe. Il faut ouvrir sa pensée à Dieu, son esprit, son cœur, sa vie. Je crois que le soleil existe, mais je dois ouvrir mes volets le matin et mes yeux le matin pour voir la lumière. Je dois ouvrir ma vie à Dieu pour être avec lui fort en relation. La foi est une ferme assurance que le Seigneur est mon soutien, mon salut et qu'il ne m'abandonnera jamais. Quand Jaïrus apprend la mort de sa petite fille, il s'effondre et le Christ lui redonne une ferme assurance, un soutien, une force, une lumière, un salut. Ne crains pas, crois seulement, crois seulement. Le secret de David, donc, ce petit caillou qu'il nous laisse, soyez en relation avec Dieu. Deuxième secret de David. Je demande une chose à l'Éternel, une chose que je désire beaucoup. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais vivre avec Dieu. Voilà. Quelle est pour vous la chose la plus importante? David est devant des ennemis. Et David dit pour moi le plus important que je cherche d'abord avant toute chose, vivre avec Dieu. Je crois qu'il a raison. La chose la plus importante, c'est vivre. Non? C'est vivre. Mais pas tout seul, sur une île déserte, avec. Sinon, la vie sans relation n'est pas la vie. C'est la relation qui fait la vie. L'être humain est fait pour être en relation. Vivre avec Dieu, parce que Dieu, c'est le Père de la vie, le Père de tout, l'auteur de tout. Et devant toutes les difficultés qui nous entourent, je pense que le plus important, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre avec toi. Amen. Je veux vivre avec toi. Je demande une seule chose à Dieu, je voudrais vivre avec Dieu toute ma vie. Amen. Je pense que c'est ce qui permettra à David de vaincre ses ennemis. On aurait pu mettre une plaque, parfois je vois des plaques sur certaines maisons. Ici est né un tel, ici est mort un tel. On devrait mettre des plaques en disant ici un homme a été envahi de difficultés comme d'une nuée d'abeilles, de guêpes. Et cet homme sans technique, sans la prière n'est pas une technique. Il a invoqué le Seigneur, il a mis sa confiance en Dieu et Dieu l'a délivré. Il dira dans le psaume, tu es mon secours, tu ne m'abandonnes jamais, Dieu de mon salut. Amen. Petit caillou blanc, devant nos difficultés, appelons le Seigneur, Dieu nous entend. Amen. Seigneur ma lumière, Seigneur mon salut, viens me secourir. Je crois que vous devez faire cette prière aujourd'hui. Je voudrais que nous regardions encore une autre prière de David. Un autre petit caillou blanc sur notre sentier, difficile d'aujourd'hui. C'est le psaume 130. Le psaume 130. Je fais la lecture, il est très court. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, des péchés, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, j'attends sa promesse, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mes amis, mettez votre espoir dans l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Du fond de l'abîme, c'est quoi un abîme? Un abîme, c'est un gouffre dans la mer. Au large du Japon, près des îles Mariannes, il y a un gouffre de 11 kilomètres de profondeur, le plus grand de toute la Terre. 11 kilomètres, c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est de Rennes à Bru? C'est vite fait, en voiture. Mais 11 kilomètres tout en profondeur, c'est interminable. On ne peut pas vivre. Au fond de ces 11 kilomètres, il n'y a rien, rien de la nuit. Et des milliards, des centaines de milliards de milliards de microbes. C'est tout. On ne peut pas y vivre. Je pense à Jonas, qui un jour s'est retrouvé dans la mer 3 jours, dans le ventre d'un poisson. Il était considéré comme perdu. On dit aujourd'hui disparu. On ne sait pas s'il est mort, mais il est disparu, on ne le voit plus. La masse de poisson qui l'avait avalé, l'eau puissante qui était autour de lui, n'ont pas empêché sa prière de monter jusqu'aux oreilles du Seigneur qui est dans le ciel. Le gouffre, l'abîme, du fond de l'abîme, ça représente notre vie mortelle, fragile, notre vie qui ne tient pas seule. Notre vie qui a été jetée un jour dans une détresse et qui ne peut pas remonter. Quand on est au fond de l'abîme de la vie, il n'y a plus de mots pour expliquer. On ne sait parfois même plus prier. On ne sait plus expliquer. J'ai rencontré des gens qui ont vécu de grands drames, des incendies gigantesques, où ils ont vu brûler des dizaines de personnes, des tremblements de terre où ils ont vu mourir des dizaines de personnes. Ils ont perdu la voix. Ils ne pouvaient plus parler. Il n'y a plus de mots qui sortent. Toute la vie est bloquée. Et au fond de l'abîme, Dieu nous donne des mots. Il nous donne le psaume 130, afin que l'on puisse dire avec des mots tout ce qui se passe du fond de l'abîme. Je crie à toi, Éternel. Si tu ne pardonnes les péchés, qui subsistera ? Le psaume 130, j'ai envie de lui donner le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix intérieure. Parce que ce psaume, il a réconforté des milliards de croyants. Des gens tombés au fond des abîmes de remords, de détresse, de déchéance, ont levé les yeux un jour vers Dieu. Le psaume nous dit, petit caillou blanc, si ça t'arrive un jour, lève les yeux vers Dieu. Dès que l'on commence à dire, du fond de l'abîme, je crie vers toi, que tes oreilles soient attentives, je crois que dès qu'on commence à prier, on remonte. Dès que l'on parle à Dieu, on remonte. Dès que l'on parle à Dieu, le Seigneur nous tire à lui. Parler, c'est monter vers Dieu. Pardon. Parler, c'est faire descendre Dieu vers soi-même. Sommes-nous dans l'abîme aujourd'hui ? Peut-être par notre faute, peut-être par nos fautes, il y a des abîmes de remords. Il y a des gens qui ne se remettent jamais d'une faute qu'ils ont faite à quelqu'un qu'ils aimaient. J'étais surveillant dans un internat, lycée. Je me souviendrai toujours de ce jeune qui devait être probablement en terminale, qui a appris à conduire. Il était un petit garçon bien gentil. Il a appris à conduire, il a eu son permis de conduire. Et le soir même, il a voulu emmener sa grand-mère dans la voiture. Il avait son permis. Il y a eu un accident de voiture, il a tué sa grand-mère. Je le revois encore revenir à l'école, dans un remords, dans une détresse incommensurable. Il avait tué sa petite grand-mère qu'il aimait tant. Il y a des abîmes par nos fautes. Nous pouvons nous-mêmes, par des mauvais choix, par des erreurs, nous précipiter dans les profondeurs du mal. On a le pouvoir de se précipiter dans le mal, mais on n'a pas le pouvoir de remonter. Je peux descendre dans le péché, je ne peux pas en remonter. Je ne peux pas me ressusciter moi-même. Quelques petites erreurs ont suffi pour envoyer le Titanic à 4000 mètres par le fond, avec 1500 personnes à bord. Quelques petites erreurs. Mais le Titanic, on n'a pas réussi encore à le remonter. Alors il faut crier à Dieu. Car sans Dieu, on ne remontera pas. Seigneur, que tes oreilles soient attentives. J'ai trouvé cette prière un peu audacieuse. C'est comme si il disait, ouvre tes oreilles, Seigneur. Je me souviens de mon professeur quand il me disait, as-tu ouvert tes oreilles ? Je prenais ça mal, puisqu'elles sont toujours ouvertes. Ça veut dire que je n'écoutais pas. Ouvre tes oreilles, Seigneur. Nous pouvons prier dans l'abîme. À la croix, dans la nuit de la croix, le Christ a entendu la prière du brigand qui mourait à côté de lui, à quelques centimètres de lui, dans l'abîme de la mort et de l'exclusion. Tu seras avec moi dans le paradis. Christ pardonne. Sans le pardon, Dieu serait tout seul au monde. Sans le pardon, Dieu n'aurait pas d'enfants. Que seraient vos enfants sans votre pardon ? Il n'y aurait plus de famille, il n'y aurait plus rien. Le psaume nous aide à voir ce qui se passe dans les profondeurs. Dans les profondeurs, j'apprends que Dieu m'aime. C'est bien à savoir ça. Parce que parfois, quand on est dans la profondeur, on se dit « personne ne me comprend, et personne ne m'aime, et personne ne sait où j'en suis. Dieu m'aime. » Dans la profondeur, Dieu est capable d'agir pour moi et de me faire remonter à la surface. Aussi vrai que le matin vient, dit le psaume, le Seigneur fera lever un nouveau jour sur nous. Le Seigneur a prévu des levées de soleil. Le Seigneur a prévu des matins de printemps. Aussi vrai que le soleil se lève, Dieu fera lever sa lumière sur vous. Dieu peut nous remettre debout. Amen. Il faut se rappeler ces mots. Avez-vous lu dans ce psaume combien de fois l'homme du psaume dit « Mon âme espère, mon âme t'attend, j'espère en toi ». On redonne ce refrain dans son cœur, on grave ça dans sa mémoire. Dieu est un Dieu qui entend, un Dieu qui promet, un Dieu qui tient parole, un Dieu qui aime le monde. Des profondeurs, je t'appelle. Je me suis retrouvé parfois dans les profondeurs, et vous aussi. On se demande où, ce qui va arriver. Il n'y a plus une oreille pour vous écouter, non. On n'a plus les mots pour dire les choses, on n'a plus rien. Peut-être qu'il faut parfois entrer dans ces profondeurs de l'existence, parce que si nous restons à la surface, là-haut, agités par les hasards, les désirs, les « j'ai envie d'eux », j'aimerais que la vie ne mène pas très loin. Il faut découvrir la profondeur de la vie. Êtes-vous passé déjà une fois à côté de la mort? Moi, deux ou trois fois. Un doigt de la mort. Et quand on frôle la mort, on découvre la profondeur de la vie. On découvre des beautés qu'on ne voyait pas ailleurs. On découvre le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. On devient plus compréhensif envers les autres. On devient meilleur avec les autres. On fait attention aux autres quand on passe à côté de la mort. Et je vois que dans les profondeurs, là, dans cette image de l'abîme au fond de la mer, là, hein, ça montre bien la profondeur parfois, je remarque qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un dans ce monde sans lumière où vous êtes. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il nous reste quand tout nous est enlevé. Quand on n'a plus rien, il reste toujours Jésus. Quand la vie nous a arraché tous nos espoirs et tous nos bonheurs, il reste toujours Jésus. C'est le message que je donne à ceux qui sont sur un lit de mort. Il vous reste Jésus. Celui qui nous fait vivre éternellement est avec nous toujours. Car Jésus a plongé dans les profondeurs. Quand il s'est incarné, il est descendu très bas, très profondément. L'incarnation est une descente de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui descend. Et dans la mort, il est descendu très, très bas. Vous le savez, mes amis, dans les océans très froids, très profonds, très mystérieux, où personne ne s'aventure. Personne ne s'aventure ici dans l'océan. On le survole, c'est tout. Dans les océans en profondeur, il y a des fleuves. Il y a des fleuves dans la mer. Le Gulf Stream est un courant chaud qui roule, qui court dans l'océan Atlantique. Pas un petit ruisseau, 100 km de large, s'il vous plaît. 1 km de profondeur. Mais ce Gulf Stream circule de l'eau chaude sur toute la surface nord de la planète. Et réchauffe notre pays. Merci Seigneur. Savez-vous, mes amis, qu'il y a des courants invisibles cachés dans les profondeurs de notre vie? Des courants invisibles, c'est le courant de l'amour de Dieu. C'est le courant de la parole de Dieu. Quand il ne reste plus rien, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On n'a plus rien, il reste la parole de Dieu. Je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Je viens à toi de ma droite triomphante. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur est mon secours. Alors voilà les deux cailloux. Un caillou pour dire « Seigneur, tu es ma lumière et mon salut face aux adversités qui n'arrêtent pas dans mon existence. » Un caillou pour dire « Eh bien, tu es du fond de l'abîme, je t'invoque, délivre-moi Seigneur, quand on me jette ou quand je me jette dans un abîme sans fond de tristesse, de solitude, de désarroi. Seigneur, je t'appelle et tu me tires vers toi. » David pourrait dire « À cet endroit de ta vie, j'ai connu l'abîme. J'ai crié à Dieu. Il m'a remonté à la surface. Amen. » David pourrait dire, j'ai connu des contrariétés multiples. J'ai crié à Dieu. Il m'a délivré de toutes mes angoisses. Amen. Ces psaumes, ce sont des signaux, ce sont des chemins, ce sont des balises, ce sont des sentiers tracés. C'est une ligne directe avec le ciel. Les délivrances du Seigneur sont abondantes chaque jour. Chaque matin, c'est un fleuve d'amour qui descend vers nous. Chaque matin, il renouvelle ses compassions envers nous. Amen. J'ai souvent entendu, Dieu n'a pas que ça à faire. Est-ce que vous diriez à la source ? On avait près de chez nous, dans notre petit village, une source avec un débit gros comme ça. C'était magnifique. Hein ? Est-ce qu'on va dire à la source, Dieu n'a pas que ça à faire ? Tu pourrais faire autre chose. Vous pouvez lui parler, elle coule toujours. Le Seigneur, son amour coule toujours pour nous. Amen. Appelez-le, faites-lui confiance. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, que ces psaumes, que ces prières nous aident à nous élever vers toi. Toi qui, dans les détresses, interviens. Toi qui lèves ta main sur ceux qui sont en péril. Toi qui prends dans tes bras ceux qui chancellent, toi qui prends en main les souffrants, les malades, les désemparés. Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Tu te penches sur chacune de nos maisons. Tu te penches sur nous cet après-midi. Je te prie et toi tu réponds. Nous t'invoquons et toi tu donnes ta réponse aujourd'hui. Ta réponse est oui. Oui, je vais te secourir. Oui, je vais te conduire par un chemin tracé pour toi. Bénis chacun d'entre nous, ton Église, nos familles, les malades au milieu de nous. Amen. Amen.